Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halud Mandi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce grand dialogue. Le secteur de la culture contribue à 2,30% du produit intérieur brut PIB du Mali selon les autorités du pays. Toutefois, ce secteur et celui du tourisme sont confrontés à d'énormes difficultés liées notamment à la crise sécuritaire au Mali. Et c'est sur ce sujet que nos invités vont porter leur analyse ce soir. Comment se portent les secteurs de la culture et du tourisme au Mali? Quels sont les défis à relever? Nos invités, Amadou Kone, ancien directeur de troupe de la Biennale artistique et culturelle, Ali Ould Sidi, promoteur Tombouctou Patrimoine, Hassan Kone, président du réseau des journalistes culturels du Mali, et Idrissa Li, acteur culturel. Je suis Mohamedou Touré.
Le grand dialogue.
Alors, comment se portent les secteurs de la culture et du tourisme au Mali? C'est le thème du grand dialogue de ce soir. Alors, monsieur Amadou Konaté, comment se portent ces deux secteurs dans le pays?
Merci, monsieur Touré, c'est bien ça?
Oui.
Pour ma part, le secteur ne se porte pas bien.
Les deux,
la culture et le pays. Les deux secteurs. Oui. Parce que lorsque c'est suite aux effets collatéraux de la crise que connaît le pays, et vous l'avez dit, à hauteur de combien de pourcents,
que 2,30%.
2,30%, ça se passe aujourd'hui. Donc aujourd'hui, à quel pourcentage il faut évaluer justement la contribution du secteur touristique et culturel. J'ai dit, c'est dommage que ces deux secteurs ont été les secteurs les plus touchés, n'est-ce pas, sur l'économie malienne. Voilà un peu le problème. Avec l'insécurité, qui est le touriste qui peut aller à Tombouctou, à Gao, à Mopti? Le secteur culturel au Mali a connu un essor très important dans ces différentes régions-là. Surtout Tombouctou, Mopti, Gao, éventuellement même Kidal. Mais aujourd'hui, il n'est pas donné même aux Maliens lui-même, de se rendre dans ces zones-là, dans les conditions en tout cas optimales, pour se le permettre. Donc, lorsqu'il y a cette insécurité qui sévit dans ces régions-là, jusqu'à atteindre un peu le centre du pays, j'ai dit impossible. La preuve, c'est que les guides touristiques, aujourd'hui, ils se sont convertis en tailleurs. Certains sont allés cultiver, ceux qui sont dans la zone de Gao. Et d'autres sont devenus, n'est-ce pas, donc des vendeurs d'objets d'art ici à Bamako. Donc le marché de Bamako est plein. Et les marchés de Tombouctou, Gao et Mopti, il n'y a rien. Et les chauffeurs également de ces guides touristiques, qui vivaient également de ça, eux aussi, ils partent plus. Maintenant, donc, il n'y a pas de clients, il n'y a pas
de touristes,
il n'y a pas d'artisans. J'avoue que
c'est devenu compliqué.
Les données sont là, hein.
D'accord. Hassan Kone, depuis 2013, avec la crise qu'a connue le pays, qu'est-ce qui a changé dans ces deux secteurs, le secteur de la culture et celui du tourisme?
Bon, depuis 2013, avec la crise qu'a connue le pays, dire que quelque chose a fondamentalement changé dans ces deux secteurs, c'est suivre M. Konaté dans son analyse en réalité. Mais peut-être les deux secteurs ne sont pas touchés au même degré. C'est vrai, les deux, et la culture a été touchée au moment de ces différents, comment on les appelait là, les différents états d'urgence. Mais après ça, le secteur de la culture a commencé à se débattre un peu. Mais en réalité, c'est le secteur du tourisme qui a vraiment pris un réel coup. un réel coup à travers la crise qu'a connu le pays.
Un réel coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu?
Non, un réel coup, ça veut dire que c'est un secteur qui est pratiquement mourant aujourd'hui. Mmh. Il est mourant parce que le tourisme malien, tout le monde sait qu'il est foncièrement culturel. Et le tourisme malien était développé, ou du moins, c'était le triangle Djenné, Mopti, Bandiagara qui attirait le maximum de touristes sur le Mali, un peu Tombouctou et Gao. Mais étant donné que cette zone-là est au centre même de la crise actuelle, il est clair que, et vous savez, avec ces différentes interdictions des chancelleries étrangères, il est clair que les Occidentaux ne viennent plus. Et en réalité, c'était eux qui constituaient le gros du touriste et de touristes sur le Mali. Bon, maintenant, peut-être on va arriver dans les perspectives.
D'accord. Idriss Ali, M. Konaté l'a dit, le secteur du tourisme, il y a eu de gros problèmes qui ont touché les guides touristiques et même les chauffeurs aussi. Et les populations n'ont-elles pas été également touchées par cette crise?
Bon, l'impact de cette crise, il est perceptible sur l'ensemble des acteurs, l'ensemble des composantes et de la société et de ceux qui interviennent dans ce domaine que vous précisez. Quel est le domaine du tourisme? En fait, moi je pense que c'est d'abord une question de perception, de la notion de tourisme dont il est question. Parce que si on le perçoit très bien, les crises peuvent nous permettre d'amorcer des mutations et d'aller ce qu'on appelle vers des solutions possibles. Parce que tourisme, ça veut dire simplement, je me déplace, je voyage vers une destination, une localité différente de ce que je connais, de ce dans quoi je vis. Alors, si une situation se présente qui fait que je n'ai plus la possibilité d'aller quelque part, je dois pourtant m'interroger où est-ce que je peux aller, ou qu'est-ce qui peut m'attirer. Et c'est ça la grande problématique. La crise du tourisme au Mali n'a pas commencé en 2013. Déjà, depuis 2009, nous avions des zones qui avaient été classées en couleur. Ça veut dire que déjà, ceux qui viennent d'ailleurs, qui étaient exactement des potentiels touristes de l'extérieur,
notamment les Européens,
voilà, qui ne sont pas du tourisme d'affaires, ceux-là déjà avaient la lettre qu'il y a des zones du Mali qu'il ne faut pas fréquenter. Alors, depuis cette période, notre perception du tourisme devait changer automatiquement. Autrement dit, est-ce que nous devons faire un tourisme qui fait un appel d'air à des gens qui, tôt ou tard, ne voudraient pas venir dans notre pays? Alors, comment fait-on pour encourager le tourisme national? Comment fait-on pour que la classe moyenne malienne s'intéresse au tourisme? Moi, je serais très heureux que mes propres enfants connaissent le Mali, plus que, par exemple, Londres ou Paris. Mais malheureusement, il n'y a presque pas d'offres pour ces gens-là.
Le tourisme... Est-ce qu'il n'y a réellement pas d'offres, ou est-ce que c'est cette population qui ne s'intéresse pas à ces offres déjà?
Oui. Il y a les deux. Parce que le tourisme aussi participe de la culture, de l'éducation. Autrement dit, il n'y a même pas une éducation touristique dans notre pays. Autrement dit, on ne forme même pas les gens dans leur tête pour dire que je quitte chez moi pour aller découvrir une autre réalité qui est de chez moi aussi. On raconte à nos enfants Tombouctou. Et c'est des enfants d'ailleurs qui racontent Tombouctou à nos enfants. Depuis que des réalités de ce genre s'installent dans les mentalités, ça veut dire que nous-mêmes nous refusons, c'est-à-dire de nous aimer nous-mêmes. Il y a plein d'espaces dans notre pays qui méritaient d'être promus et qui devaient être un appel d'air pour des nationaux. Et ce qu'on appelle la diaspora malienne, Dieu sait que elle est très nombreuse, elle est très diverse. Et elle a envie de venir découvrir le Mali. Mais ce n'est pas l'offre classique seulement qui doit les attirer. Notre culture et tourisme a été essentiellement culturel.
D'accord. Ali Ould Sidi, vous êtes promoteur de Tombouctou Patrimoine. Alors, au nord du pays, comment se portent ces deux secteurs?
Bon, premièrement, je suis à Bamako, je suis retraité du terrain l'année dernière, mais je continue quand même à maintenir le contact avec Wadi Nathal Timbuktu.
Mm-hmm.
Moi, je perçois le problème sous un autre angle. Il ne faut pas qu'on ait une dichotomie entre culture et tourisme. Comme quelqu'un a le dit dans le débat, notre tourisme qui se passe ici au Mali est un tourisme purement culturel. C'est un tourisme qui se passe autour des sites culturels, tels que les manuscrits, l'architecture de Tombouctou, les maisons des explorateurs, les ateliers Tenderou, etc., etc. Mais vous avez posé la question aussi de savoir l'état du patrimoine au Mali. Moi, je dirais qu'en tant qu'ancien gestionnaire de Tombouctou, je dirais que le patrimoine se porte bien au Mali. À la mesure au registre de l'UNESCO, nous avons 13 sites qui sont inscrits au patrimoine mondial, Tombouctou, Djenné, Banyangara et Gao. Mais maintenant, par rapport à la crise, il y a eu certainement un saccage du patrimoine. Il y en a eu à Tombouctou, il y a des mausolées qui ont été, il y a des mosquées qui ont été également concernées. Et cette crise a également joué, si vous voulez, sur le vivre ensemble, dans la mesure où la cohésion sociale quelque part a été mise en cause. Si on n'entretient plus les mosquées, si on n'organise plus les festivals, si on n'autorise plus les pratiques culturelles qui sont liées à l'entretien de ce patrimoine culturel, il va de soi que la société, on va assister à un effritement de la société. Alors tout cela peut dire que la culture, c'est aussi notre élément de base, c'est notre substrat. Non seulement pour pouvoir renforcer la cohésion sociale, le vivre ensemble, mais aussi pour pouvoir organiser cette activité touristique qui est le tourisme. Pour revenir au tourisme, depuis un certain temps, le tourisme, il est presque mort, comme quelqu'un l'a dit. Sinon, à Tombouctou, près de 80% des personnes vivent du tourisme. Le tourisme est une activité transversale qui fait appel, dont se nourrit les guides touristiques, les professionnels du patrimoine, les restaurateurs, les transporteurs, les commerçants. Donc, c'est vraiment une activité qui fait nourrir beaucoup de personnes à Tombouctou. Mais avec la crise, les infrastructures hôtelières ont été fermées, il y a une paupérisation des acteurs du tourisme, et il y a même, si vous voulez, à Tombouctou, un quartier qui est né spécifiquement suite aux retombées du tourisme, du côté de Lazalet, par exemple, un quartier qui est contigué à celui de Lazalet. Donc, tout cela pour dire que le tourisme est vraiment une activité transversale, une activité qui fait vivre Tombouctou.
Il y a Michel Lee qui pense que... Allez-y.
Mais revenons aussi quand même à l'histoire. Parce que moi, en tant qu'historien, je vois le tourisme sous un autre angle. Le tourisme n'a pas commencé aujourd'hui. Quand quelqu'un me dit que le tourisme était florissant dans le triangle Banyangara, Djenné, Tombouctou, je suis d'accord. Mais Tombouctou a connu un tourisme ancien depuis le 14e siècle. Tant que Moussa Kanté est revenu de l'armée, qui a amené un nom de l'eau, Abou Issak Ismaili, un mechet qui a construit la mosquée de Zingereber, qui fait aujourd'hui la chapelle de Tombouctou, un site inscrit au patrimoine mondial. Mieux, après lui, il y a eu aussi d'autres personnes qui sont venues. OK? Et qui a, par exemple, on prend le cas d'Al-Wazani, Jean-Léon l'Africain, qui a fait l'Atlas Catalan, qui a permis d'inscrire, de montrer Tombouctou sur la carte du monde, et c'est aussi à attirer d'autres touristes. Au XIXe siècle, avec l'arrivée des missionnaires, tel que René Caillé en 1826, en 1828, Amandi Godolengue en 1826, Henri Schubert en 1852. Donc, tout ça, c'est pour dire que Tombouctou dispose d'une vieille tradition touristique en matière d'activité touristique.
D'accord, mais il y a M. Lee qui pense que ces deux secteurs ne sont pas bien vendus par les autorités.
Pardon ?
Il y a M. Lee qui pense que ces deux secteurs, le secteur de la culture et celui du tourisme, ne sont pas bien vendus par les autorités.
Mais ça ne peut pas être bien vendu aujourd'hui parce que nous travaillons quand même une période de trouble. Il faudrait que cette période de trouble passe pour que... Parce qu'à un moment donné, les autorités ont pensé que les deux, c'est indissociable. C'est pourquoi il y a eu, au temps du président Alpha Omar Konaré, cette volonté de créer le ministère du tourisme, de la culture, du tourisme et de l'artisanat. Donc on a essayé de les mettre ensemble parce qu'on s'est dit que ces deux secteurs sont indissociables. Effectivement, ces deux secteurs sont complémentaires.
D'accord, monsieur Konaté, est-ce que ces deux secteurs sont bien vendus par les autorités?
Bon, du tout, aujourd'hui, hein, aujourd'hui non. Ali vient de dire que c'est deux secteurs qui sont inséparables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier l'art et la culture. Et la bonne preuve, c'est que, effectivement, Aminata Abdrahmane Traoré fut ministre de la Culture et du Tourisme. Bon, donc, on passe sur ça. Mais ce qui est important, c'est que, aujourd'hui, ces deux secteurs constituent un poumon. Je peux pas dire réellement un poumon, mais c'est quand même, ça fait partie du système de ventricule économique du Mali. Hein, mais j'ai dit, j'avoue que c'est vraiment désolant. C'est qu'il n'y a pas assez de commentaires sur ce que nous savons déjà. Nous savons que il y a des hommes et des femmes qui vivent de ces activités là. Il y a des guides, il y a des transporteurs, il y a
Voulez-vous
des hôteliers.
Dire que ces deux secteurs
nombreux.
Ne sont pas valorisés.
Hein, ces deux secteurs ne peuvent pas être valorisé.
Pourquoi?
Suite à la crise que nous vivons aujourd'hui.
Avant, est-ce que ça l'était?
Avant, il faut dire que ça l'était parce que Ali l'a dit, hein, bien avant notre décennie ou quelque chose comme ça, depuis des temps immémoriaux, notamment le temps des Henri Bartz, des Gordon Lake, tout ça là, nous on était, bon, Tombouctou a connu tous ces gens-là, c'est grâce au tourisme. Bon, et j'ai dit, Tombouctou a toujours vécu, d'ailleurs, une bonne partie, hein, les quelques 80% des populations de Tombouctou vivaient sur les retombées du tourisme. Il y a même un quartier d'ailleurs, Ali l'a dit aussi, que je connais très bien. Donc j'ai dit, à ce niveau, on ne peut pas valoriser, disons, les deux secteurs dans ces conditions que nous vivons aujourd'hui, notamment l'insécurité. Et d'ailleurs, ceux-là qui sont chargés d'animer ces secteurs-là, ils se sont tous convertis sur d'autres activités. Donc, pratiquement, on ne les trouve même pas.
D'accord. Monsieur Li, qu'est-ce...
La valorisation de ces deux secteurs, vous permettez?
Allez-y.
Oui, je voudrais intervenir là-dessus parce que il ne faut pas qu'on pense que vraiment notre culture et notre tourisme sont en train de péricliter et que des efforts ne sont pas faits. Hein. Il y a d'énormes efforts qui sont en train d'être faits et par la communauté internationale et par l'État du Mali.
Mais est-ce que vous êtes d'accord avec M. Li quand il dit que les Maliens aujourd'hui s'intéressent beaucoup plus aux cultures des autres qu'à leur propre culture?
C'est ce que j'ai dit. Je suis d'accord avec lui, mais ce n'est pas parce que nous traversons aussi une période de crise que nous devons laisser ces différents secteurs-là mourir. Nous devons consolider la culture.
Mais avez-vous une explication à cela déjà? Pourquoi les Maliens s'intéressent beaucoup plus aux cultures des autres?
C'est une question d'éducation. Moi, je pense que nous devons mieux apprendre à nous connaître nous-mêmes. Il a raison. Et pour ce faire, d'ailleurs, nous devons profiter de cette situation actuelle pour pouvoir inverser la tendance du tourisme au Mali. Il faut qu'on arrive à instaurer un tourisme malien. Il faut qu'on arrive à nous connaître. Par exemple, de par le passé, dans les lycées régionaux, on orientait les ressortissants de toutes les régions, au lycée régional de Tombouctou, par exemple. Aujourd'hui, nous avons des promotionnaires partout, de toutes les régions, dans l'administration. Mais pourquoi ne pas aussi créer ou bien encourager ou soutenir des rencontres des jeunes au niveau de ces régions-là, des gens de Kita qui vont aller à Tombouctou ou bien à Gao, vice-versa, pour que les Maliens se connaissent entre eux. Ensuite, introduire aussi dans nos programmes scolaires.
D'accord, on va venir aux solutions tout de suite. Monsieur Li, qu'est-ce qui a fait qu'au niveau de l'éducation aujourd'hui, quelque chose a changé par rapport à cet intérêt que les Maliens portent, selon vous, aux cultures des autres? Est-ce que c'est à cause de la télé?
Oui, la télé a joué un rôle très important là-dedans. Mais on ne peut pas tout reporter à la télé. Parce que si vous n'offrez rien à vos enfants, ils consomment ce qu'on leur offre. Nous avons ce problème qui est un problème fondamental. Nous avons, on va dire, démissionné dans l'éducation réelle de nous-mêmes. Cela veut dire quoi? Se connaître soi devait continuer à être fondamental pour nous-mêmes. Ce n'est pas un repli systématique, mais c'est une façon de mieux s'ancrer. Quand je disais que il y avait une possibilité d'orienter notre tourisme, c'était que à partir du moment où nous avons fait le constat que notre tourisme, essentiellement culturel, est basé sur des zones qui sont connues, avec des acteurs bien connus, que ce chaînon est bloqué, nous devions nous-mêmes nous dire « Ah, il faudra inventer autre chose ». C'était quoi concrètement ?
Nous, c'est qui ?
Quand je dis « nous », il s'agit de l'ensemble des acteurs. Il y a d'abord le gouvernement, parce que c'est lui qui conduit la politique en la matière. Et cette politique a fait un pas assez important lorsque ils sont arrivés à créer une agence de promotion touristique séparée de la direction du tourisme. Parce qu'avant, c'était l'entité unique Omato, où les activités administratives étaient un peu mélangées aux activités de promotion. Au moment où on a connu des difficultés, je crois que l'intelligence a fait qu'ils ont créé une agence de promotion touristique. Et cette agence, de mon point de vue, allait se dire, dans notre pays, nous n'avions pas suffisamment exploré l'écotourisme. Nous avons aujourd'hui dans notre pays beaucoup de sites, beaucoup d'espaces qui ne sont pas exclusivement culturels, mais qui sont écologiques et qui méritent d'être connus. La zone du Delta, les lacs, la zone de Sélingué et les zones de Kita, et j'en passe, ne sont pas des zones connues par nous-mêmes. L'Office du Niger, qui est une richesse à la fois économique et historique, elle n'est pas connue. Elle n'est pas connue, je veux dire. Le barrage de Markala n'est pas connu. Nous avons les premiers et les plus grands barrages de l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, les autres nous ont dépassés. Manantali est un barrage qui n'est pas connu. Et pourtant, il y a des vies autour de ces barrages-là. Alors, une des possibilités, c'était de dire... Maintenant que d'autres ne viennent pas sur ces sites-là, comment on fait en sorte que nos enfants puissent aller? Comment on fait en sorte que la classe moyenne puisse aller les découvrir? Et ce travail, il est porté par le gouvernement, mais surtout par ceux qui se sont orientés dans le privé pour ça. Moi, j'entends des agences de communication, moi, j'entends des agences touristiques qui font des colonies de vacances. Mais essentiellement, c'est pour déporter, entre guillemets, nos enfants vers le Ghana, vers la Côte d'Ivoire, pour aller découvrir quoi, qui leur rapporte quoi, par rapport à ce que nous devons enseigner à nos enfants. Ça, c'est des problèmes vraiment fondamentaux. Si on ajoute à cela, le tourisme religieux aujourd'hui peut être un tourisme qui peut rapporter à notre pays. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour organiser toutes ces ziaras-là? Qu'est-ce qu'on fait pour organiser tous ces événements qui peuvent rapporter et à ceux qui l'organisent et à nous qui pouvons être curieux de les connaître? C'est tout un travail. C'est pourquoi je dis, nous devions nous-mêmes réfléchir à d'autres possibilités. J'ai parlé de la diaspora. Quel appel d'air nous faisons par rapport à notre propre diaspora? Il y a certains qui viennent dans la zone de Yélimani et dans la zone de Kaï, mais c'est presque tout. Mais il serait curieux de savoir exactement ce qui se passe chez mon cousin dans le pays Bobo. Il y a plein de curiosités qu'il faut découvrir là-bas. Le ministère de la Culture, à un moment donné, a fait le gros travail pour identifier ces sites-là, pour les matérialiser et même les documenter. Mais son travail se limite là à ça. Pour les promouvoir, il faut d'autres acteurs.
D'accord. N'est-ce pas également le rôle des journalistes de faire connaître ces différents sites à travers des reportages, notamment, M. Hassan?
C'est tout à fait normal. Hein. Les journalistes, à un moment donné, ont vraiment fait ce travail-là. Mais il faut le dire que c'est un travail toujours très compliqué quand on connaît la situation dans laquelle une partie de la presse malienne évolue. Les conditions de difficulté dans lesquelles cette partie de la presse malienne évolue. Mais au moment où le journaliste arrivait à faire ce travail-là, c'est parce qu'il y avait un dispositif au niveau du ministère du tourisme pour cela. À l'époque, le Mali a eu une opportunité avec un ministre, il faut le dire, il faut saluer des gens qui ont pu faire bouger des machines à un moment donné. Et Ndiaïba
Et quand il arrivait, il faut reconnaître que le secteur touristique malien a vraiment fait un boom sous Ndiaïba. C'est avec Ndiaïba on a vu des vols charters, c'est avec Ndiaïba on a vu des gens vendre la destination Mali aux États-Unis, en Europe et partout dans le monde. Parce qu'ils avaient mis en place un dispositif.
Le tourisme apportait à l'époque près de 110 milliards
de francs CFA
dans notre budget.
Les gens parlent de 80 milliards en 2011. Mm-hmm. Et la culture apportait 116 milliards. Mm-hmm. Donc les deux mis bout à bout, on était déjà à environ 200 milliards avant la crise. Et c'était déjà, on était arrivé à un gap de 300 000 touristes qu'on drainait vers le Mali. Je suis d'accord avec, et ça c'est ma position, hein. C'est-à-dire quand on a senti ce problème-là arriver...
Juste une petite parenthèse, quand vous dites que une partie de la presse malienne rencontre aujourd'hui beaucoup de difficultés, de quoi voulez-vous parler?
Non, je vais dire simplement toute cette partie de la presse malienne qui est dans la presse privée. Mm-hmm. A les moyens suffisamment limités.
Ah, elle n'est pas accompagnée, vous voulez dire, par les autorités.
Elle n'est pas accompagnée. À l'époque, la presse était accompagnée, soutenue, pour faire ce travail-là. Et ce travail se faisait très bien. Mais le ministère n'accompagne pas la presse dans ce sens-là aujourd'hui. Pratiquement au niveau du tourisme, il faut le dire, rien n'est fait aujourd'hui.
Est-ce par manque de vision ou...
Moi je pense que c'est par manque de vision. Je suis totalement d'accord avec Idriss Ali. On doit profiter de cette période de crise pour mettre en place le dispositif qui va faire profiter le Mali de la manne financière de son secteur touristique après la crise. Et rien n'est fait pour cela. Si la crise malienne venait à prendre fin demain, on va être surpris. Parce que n'oubliez pas, on est en train de bénéficier d'une très grande publicité à travers le monde, à travers la crise aussi. Donc il faut qu'on se prépare pour exploiter ce secteur touristique qui fait une attraction forte du Mali à travers le monde. Et rien n'est fait dans ce sens-là. Et en même temps, la réflexion n'est pas conduite.
Vous voulez dire qu'il y a un côté positif de cette crise aussi?
Mais, en toute chose sur la Terre, rien n'est négatif à 100%. Hein? C'est vrai, aujourd'hui, la crise nous cause beaucoup de tort. Mais en même temps, des gens qui n'ont jamais entendu parler du Mali entendent parler du Mali aujourd'hui. Et peut-être si la calmie revenait demain, ces gens pourraient avoir la curiosité de venir découvrir notre pays. Et il faut qu'on se prépare pour les accueillir.
Toutes les grandes nations se sont construites après les crises.
Ça, c'est un. Et de deux, et Idriss Ali a touché à un point essentiel. On a commis l'erreur de vouloir construire un secteur touristique en comptant seulement sur les touristes qui viennent de l'extérieur du Mali. On n'a pas fait ce travail de fond-là pour développer le tourisme intérieur. Enfin, comme le disent les Maliens de la classe moyenne, puissent prendre cette habitude-là de voyager à travers le pays. Cela constitue aussi une manne financière. Et je vous donne un exemple. C'est l'exemple est palpable. On peut prendre deux événements et on va les comparer du point de vue culturel. Il y avait le festival au désert. Un festival qui est orienté vers les participants qui viennent de l'extérieur du continent. Il y a le festival sur le fleuve Niger qui a fait l'effort de s'orienter sur une clientèle malienne. Et Dieu faisant les choses, la crise a prouvé que les deux modèles économiques, le meilleur était le modèle économique que Ségou a adopté. Parce qu'aujourd'hui, les touristes ne viennent plus comme il le faut, mais le festival de Ségou continue à réunir ses 30 000, 40 000 participants.
Mais est-ce que cela n'est pas lié aux deux zones puisque
non, pas forcément aux deux zones. Oui, c'est vrai. Mais si, même si c'est au nord, si le festival au désert avait travaillé sur la population du nord, comme Ségou a travaillé sur la population de Ségou et la population de Bamako, il est clair que même malgré la crise, on pouvait tenir des activités là-bas. Par exemple, la population même allait participer.
D'accord.
Voilà un peu ma vision.
Moi, je parle du petit raisonnement que...
Vous allez revenir tout de suite. On va laisser M. Konaté réagir.
Moi, je voulais juste abonder sur la question d'effort que le gouvernement est en train de faire. Mais pour nous, il n'y a pas d'effort. Il faut dire la vérité.
Pourquoi vous pensez qu'il n'y a pas d'effort?
Le premier effort, c'est d'abord sécuriser les gens, sécuriser un peu le nord pour que les gens y partent. Mais lorsque l'endroit n'est pas sécurisé, comment voulez-vous aller faire le touriste dans ces localités? C'est pas possible. La preuve, c'est qu'on a dit qu'il y a quand même des lignes rouges. Tout récemment, il y a eu une autre ligne rouge qui rétrécissait encore une fois, je veux dire...
Quand vous dites qu'il n'y a pas d'effort, voulez-vous parler également du manque de personnel et de matériel dénoncé au niveau local par certains observateurs dans les différentes directions culturelles?
Non, non, moi je parle de l'ensemble du gouvernement. Hein.
Il parle de la sécurité.
Moi je parle de la sécurité. Tant qu'il n'y a pas de sécurité, il ne peut pas avoir de tourisme. Mais si le secteur n'est pas sécurisé, moi je ne peux pas me rendre, quels que soient les moyens. Alors donc ça, c'est un aspect. Bon, donc la question de sécurité est au centre et au centre de tous les de toutes les difficultés que connaît le secteur touristique. Qu'on se dise la vérité. Combien de touristes ont été enlevés? Et les touristes sont déjà les personnes les plus ciblées. Maintenant, lorsque Idriss Sali parle du tourisme national, cela est évident. Il y a eu une démission, il y a eu une mauvaise approche. Justement, on ne sait plus donner les moyens.
On sait qui ? Les autorités ?
Quand je dis on, il y a les autorités, il y a la population, parce que il y a même les populations, parce que c'est les populations qui donnent leurs enfants pour les amener au Ghana, en Côte d'Ivoire. Et ils ont un mécanisme, un système de contrat, une semaine, deux semaines, par vol. Bon, c'est pas ce qui est important dans l'éducation de l'enfant. L'enfant doit d'abord se connaître. Et se connaître, c'est connaître ses réalités, connaître son environnement social, économique et politique. C'est cela. C'est là qu'on peut créer un bon futur citoyen. Mais à contrario, on envoie les enfants en France, en Europe et puis dans la sous-région.
D'accord. Ali Oul Sidi, aujourd'hui, à quoi servent tous ces festivals qui sont organisés à travers le pays?
Voilà. Moi, je voudrais. Bon, c'est ça. Moi, je pense que ce n'est pas à cause de l'insécurité que nous devons laisser l'activité touristique mourir. Et il n'est pas dit seulement que l'activité touristique est essentiellement réservée aux étrangers. Parce que la notion de touriste, c'est quelqu'un qui passe une nuit en dehors de chez lui. C'est ça la définition de l'Organisation mondiale du tourisme. Donc, moi, je pense qu'il y a un certain nombre d'activités à viser. D'abord, nous devons profiter de ce temps-là pour consolider notre potentialité culturelle. C'est ce que le ministère de la Culture est en train de faire avec les autres partenaires tels que l'UNESCO, etc. Nous avons reconstruit les mausolées. On est en train de faire des efforts louables en direction des manuscrits.
Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que les activités culturelles organisées au Mali se sont beaucoup plus focalisées sur le monde extérieur que le monde national?
Non, ça je ne le partage pas. Parce que si je prends seulement le cas de l'exemple du festival au désert, le festival au désert, il est vrai qu'il reçoit des visiteurs, mais le festival au désert, il est organisé d'une manière participative, organisé avec les populations locales. Regardez seulement combien de personnes bénéficient de la location de tentes, combien de personnes jouissent également de leur patrimoine, parce qu'ils vivent aussi leur danse traditionnelle. Le festival, c'est des rencontres intercommunautaires, c'est des espaces d'échange. Attention, tout n'est pas...
Bon, mais au-delà de cet apport du festival, est-ce que les offres, ce qui est offert aux participants au cours de ce festival, est-il destiné au monde extérieur plutôt qu'aux nationaux?
Bon, il est destiné aux deux parce qu'il y a des espaces d'expression pour les communautés locales. Autant il y a des concerts destinés aux étrangers, il y a aussi des espaces destinés aux communautés locales. Bon, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, il y a l'aspect, si vous voulez, formation. Parce que pendant ce temps-là, ce temps de crise-là, on peut bel et bien profiter non seulement pour mieux entretenir et conserver le patrimoine culturel, le valoriser, mais aussi nous occuper des acteurs du tourisme. Ceux qui font ce tourisme-là, il faut les former, notamment les guides qui sont les premiers et les derniers à dire au revoir à ces touristes, là-dedans. Il faut qu'ils soient bien formés. Il faut que tous ces acteurs du tourisme soient formés, les chauffeurs, les hôteliers, etc., pour qu'on ait vraiment des services de qualité. Ça, on peut le faire pendant ce temps-là. Ensuite, réorienter notre tourisme. Faisons en sorte que le tourisme religieux qui est développé à Tamoukou pendant les Ziyara, pendant les Maulud, les nombreux festivals qui se passent là-bas sont également des festivals pour l'ensemble des enfants du Mali.
D'accord, Monsieur Lee, est-ce à cause également de ce manque de formation, vu qu'aujourd'hui tout le monde organise un festival et ça s'organise partout?
Excusez-moi si je souris lorsque vous me posez cette question, parce que le foisonnement des événements culturels, notamment les festivals, a été bien voulu. C'était à un moment donné une façon de libérer les énergies, surtout les énergies créatives. Mais à un moment donné, il fallait se donner les moyens de les évaluer et faire en sorte que les événements touristiques et disons culturels, qui sont des appels d'air pour le tourisme, participent d'une programmation bien organisée. Et à supposer que des gens veuillent bien prendre des congés pour mieux jouir de ces congés-là, ils veulent faire du tourisme. Il serait très heureux que dans un espace-temps de 15-20 jours, même un mois, qu'ils puissent faire tous les grands événements. Ils s'organisent pour ça. Ils font leur congé, ils se donnent les moyens. Souvent, il y en a qui capitalisent pendant toute l'année. Mmh. Et maintenant, ils mettent leur argent dans un circuit. À un moment donné, ce travail d'évaluation, on l'a fait. Il y a des rapports qui ont été dressés lors des rencontres. Moi, je me rappelle qu'il y a eu au moins deux grandes concertations pour faire l'évaluation des tourismes. Et pardon, des activités culturelles, notamment les festivals. Mais moi, je vais au-delà. Je ramène la question des ressources humaines. Aujourd'hui, nous avons la chance, comme Ali Ould a dit, que nous pouvons nous ressaisir. Tous ceux qui ont animé le tourisme dans le temps n'étaient pas essentiellement des professionnels et des spécialistes du tourisme. C'était des collègues enseignants, surtout ceux qui ont fait histoire et géographie, qui encadraient le secteur culturel et, disons, touristique. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Certains d'entre eux ont eu la chance de faire des études complémentaires. Il y a eu aussi quelques cadres qui ont fait des études à l'extérieur. Mais au plan national, quelles sont ces écoles spécialisées dans le tourisme au Mali?
Je voudrais consolider.
Et ce qu'ils font, ils insistent beaucoup plus sur l'hôtellerie plutôt que du tourisme. Aujourd'hui, moi, mon problème, ce n'est même pas la formation exclusive des guides. C'est véritablement des gens qui sont capables de concevoir un petit programme touristique.
D'accord.
Qui sont capables.
Je voudrais consolider un peu liées. Mais avant, Hassan. Hassan avait parlé de résultats, de succès dans le temps. À l'époque, il a même cité Ndiaïba. Et lui, il a parlé de
100 milliards
d'un programme, tout ça. Mais en fait, s'il y avait ces succès, s'il y avait ces programmes-là, c'est parce qu'il y a quand même des gens qui avaient de l'expertise dans ces domaines-là, qui ont conçu des programmes. La preuve, c'est que lorsqu'il y a il y a toujours l'ouverture officielle de la saison touristique qui est organisée au niveau national ou certainement dans certaines localités. Est-ce que vous voyez, ça peut être à Kidal. La dernière fois, on a fait à Kidal.
Voulez-vous dire qu'aujourd'hui, c'est comme on le dit, il n'y a pas les hommes qu'il faut à la place qu'il
faut. Mais il y a ça. Il faut le dire, il ne faut pas l'occulter. C'est-à-dire que ce n'est pas du hasard. Il y avait une conception académique pour pouvoir sortir un programme associé, un programme bien associé, et qui est mis en œuvre par des hommes et des femmes qui avaient en charge cette mission-là. Donc forcément, il y a résultat.
D'accord, il nous reste juste 4 minutes, donc une minute pour chaque invité. Aujourd'hui, relever les défis dans ces deux secteurs?
Mais pour relever le défi dans ces deux secteurs-là, il faut les hommes et les femmes qui ont l'expertise. Et s'il y a des hommes qui sont de l'autre côté, qu'on les fasse appel. C'est-à-dire qu'il faut considérer, il faut avoir de la considération et du respect pour l'expérience, ceux qui sont chargés, qui ont vraiment de l'expérience en la matière. Il faut appeler tout le monde. Le secteur de la culture et du tourisme ne sont pas politiques. Il faut que les gens le comprennent. C'est notre seule richesse que nous avons.
D'accord. Hassan Kone, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour relever le défi?
Bon, moi, je pense que pour relever le défi, il faut un travail de fond. Déjà, quand on prend le secteur culturel que je semble un peu connaître, il y a un travail de fond dans le sens de l'industrialisation, c'est-à-dire la professionnalisation des acteurs qui va conduire à une industrialisation du secteur culturel. Et en réalité, il y a un grand travail qui avait été fait à l'époque où les Idriss Ali étaient encore au département de la culture, mais malheureusement, l'idée n'a pas été poursuivie. C'est ça aussi le problème du Mali. Cette agence de promotion des industries culturelles que le ministère de la Culture à l'époque avait voulu mettre en place. Moi, je pense, je le dis partout, hein, c'est une initiative qui n'est pas dépassée. Elle est toujours d'actualité. Comment industrialiser le secteur culturel malien sans mettre en place une structure étatique qui va réfléchir, concevoir et conduire une politique pour cela? C'est le ministère, c'est vrai, c'est sous la couverture du ministère que ce travail sera fait, mais c'est une structure qui va dépendre du ministère, qui sera mise dans la main de grands spécialistes qui vont réfléchir et qui vont conduire vraiment tout un programme autour de l'industrialisation. Les gens pensent que c'est quelque chose qu'on peut décréter. On ne peut pas décréter l'industrialisation du secteur culturel. D'accord. Il faut faire un travail de fond pour accompagner le processus et peut-être au bout de 10 ans, 15 ans, on verra que
la situation va évoluer.
La multitude des...
Ali Oldesi dit aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour relever le défi dans ces deux secteurs?
Non, il faut d'abord éclaircir les choses. Moi, je pense que dans les deux secteurs, nous avons vraiment des professionnels. Et mieux, nous avons des documents de travail, des politiques sectorielles, que ce soit dans le domaine de la culture, aussi bien que dans le domaine du tourisme. Et moi, je pense que nous, de plus en plus, nous faisons mieux. Nous avons des cadres qui se spécialisent en la matière. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est beaucoup plus la synergie entre les deux secteurs. Il faut qu'il y ait cette synergie entre
une meilleure collaboration entre les deux secteurs. D'accord. Monsieur Idriss Ali, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui comme solution? Merci, monsieur Ali.
Bon, moi, je voudrais dire que ce qui peut être essentiel, c'est la mutation, on va dire, psychologique et intellectuelle de notre pays par rapport à ce qu'il est lui-même. Aujourd'hui, ce qui peut nous être très utile, c'est lorsque nous-mêmes nous disions que ça ne peut aller que de nous-mêmes. Ça, c'est un bon préalable. Et là, je crois que les secteurs du tourisme et de la culture, on est en train d'oublier l'artisanat. Bon, j'imagine quand on parle de culture, on parle de l'artisanat également, parce que le touriste, il a besoin aussi d'acheter ce qui lui paraît intéressant dans notre pays. Ces secteurs-là, au-delà même du fait de les retrouver dans un même ministère, il faut une philosophie générale pour les conduire conjointement. Si on arrive à faire ça, tout ce qui est renforcement des capacités, tout ce qui est éducation, formation à la culture et à la culture nationale peut se retrouver s'il y a un schéma conçu dans ce cas. Il a parlé de la problématique de la notion, des industries culturelles. Notre culture a longuement été appréciée à l'aune du folklore. Or, ailleurs, aujourd'hui, les économies liées à la culture sont les économies les plus importantes, surtout dans le monde des nouvelles technologies.
D'accord, espérons qu'on
donc,
y parviendra.
Nous, on fonde beaucoup d'espoir par rapport à ces secteurs-là.
À ce secteur-là. Merci, et c'est ce qui met fin, le temps ne le permet pas, c'est ce qui met fin à ce débat. Nos invités, Amadou Konaté, ancien directeur de troupe de la Biennale artistique et culturelle, Idriss Ali, acteur culturel, Ali Ould Sidi, promoteur Tombouctou Patrimoine, et Hassan Kone, président du réseau des journalistes culturels. Débat réalisé par Fatmata Togola, mise en onde assurée par Philly Dambélé à la régie vidéo. Nous me direz, je suis Mohamed Touré à la présentation et coordination de ce débat. Merci et à demain.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry, Halo Demandé. Chenne Berry, Sigi Kafoba.